Bonsoir. Dans son dernier rapport sur le massacre de Beni, le groupe d'études sur le Congo révèle que plus de 800 personnes ont été tuées à la machette et 180 000 déplacées depuis octobre 2014 lors des tueries de masse aux alentours de Beni au nord Kivu. Parmi les auteurs de ces massacres, ces rapports citent notamment les rebelles ougandais des ADF, certains officiers FRDC ainsi que des milices locales instrumentalisées par quelques hommes politiques. Quel est le pire faire de ces rapports? C'est la question de l'émission. Et participe à ce débat, Jason Stotz, il est directeur du groupe d'études sur le Congo à l'Université de New York. Il est ancien coordonnateur du groupe d'experts des Nations Unies en RDC. Bonsoir, Monsieur Jason Stotz.
Bonsoir.
Maître Juvenal Munubo Mubi, député national, il est membre de la commission défense et sécurité. Il est aussi rapporteur de la sous-commission des forces armées à l'Assemblée nationale. Bonsoir, honorable Juvenal Munubo Mubi.
Bonsoir, monsieur Guy. Bonsoir à tous les auditeurs.
Et Boniface Moussavouli, il est analyste politique et est auteur d'un ouvrage sur le massacre de Beni. Bonsoir, monsieur Boniface Moussavouli.
Bonsoir, Guy, et bonsoir à vos auditeurs également.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Plus de 800 personnes ont été tuées à la machette et 180 000 déplacées depuis octobre 2014 lors des tueries de masse aux alentours de Beni. Ces chiffres sont fournis par le groupe d'études sur la RDC. Dans un rapport publié lundi dernier à New York, le GIEC trouve mystérieuse cette vague de tueries qui a fait du territoire de Beni le territoire des conflits les plus violents du pays. Parmi les auteurs de ces massacres, ces rapports pointent du doigt accusateurs des officiers supérieurs des FRDC en charge de l'opération Sokola. Des détails avec Michel Kifinangoui.
La violence a été enveloppée de mystères et les rebelles islamistes ougandais, les ADF, ont souvent été accusés de ces actes. Les résultats du rapport du GIEC de plus de 2 années de recherche révèlent cependant une réalité plus complexe et troublante. À en croire ce rapport, alors que les ADF ont participé à de nombreux massacres, les officiers appartenant à l'ancienne armée patriotique congolaise APC ont aussi lancé les massacres en 2013, conjointement avec les ADF et les chefs coutumiers locaux. À la mi-fin de 2014, poursuit le même rapport, alors que les opérations initiales de Sokola 1 visaient de manière agressive les ADF, le commandant de ces opérations subséquents, un général des FARDC, est lui-même complice des massacres des civils. Non seulement que cela reflète mal sur les opérations militaires de la MONUSCO qui a fourni un soutien à l'armée congolaise, mais aussi démontre qu'une stratégie purement militaire sera insuffisante pour stabiliser cette zone, conclut le rapport du groupe d'études sur le Congo.
Merci Michel Kifinangoy. Jason Storson, je rappelle que vous êtes directeur du groupe d'études sur le Congo à l'Université de New York. Vous êtes ancien coordonnateur du groupe d'experts des Nations Unies en RDC. Vous venez de publier un rapport sur le massacre de Beni. En parcourant ces documents, on a comme l'impression que vous êtes parvenu à faire ce que aucune autre étude n'a fait jusque-là, c'est-à-dire identifier les véritables initiateurs de ces différents massacres ainsi que leurs motivations. Qui sont-ils et comment avez-vous procédé pour les identifier?
Merci beaucoup et merci à tous les auditeurs. Je pense que ce qu'il faut souligner, c'est la complexité du conflit de Beni. C'est souvent présenté comme un conflit simple avec des attaquants qui proviennent d'ailleurs des islamistes ougandais, des djihadistes qui attaquent les peuples civils autour de Beni. Ce que nous avons trouvé, c'est un conflit très très complexe, un conflit avec différents circuits ou réseaux de tueurs qui souvent se chevauchent, mais qui aussi font concurrence entre eux-mêmes. Il y a 4 acteurs principaux, vous l'avez cité. Il y a l'ancien groupe rebelle qui était dans le temps dirigé par Mbousse Nyamwisi, l'APC. Il y a les milices locales qui recrutent au sein des minorités de Beni, des communautés minoritaires de Beni. Il y a les ADF, ces rebelles islamistes ougandais, et il y a l'armée congolaise. Alors, ce que nous avons trouvé, c'est que les attaques ont commencé avant les opérations Sokola 1. En fait, les massacres commencent au même moment que la rébellion M23 contrôle le sud de la province du Nord Kivu. La rébellion de M23 voulait ouvrir un autre front dans les territoires de Lubero et Beni, en alliance avec des anciens officiers APC. Ça, c'est aussi documenté par les rapports des Nations Unies. Et donc, les premiers massacres, c'était des tentatives de cette nouvelle rébellion de s'implanter dans la région frontalière entre l'Ouganda et le Congo, mi-2013. Et dans ces attaques aussi, il y a la collaboration avec les miliciens locaux et avec l'ADF. Et ça, nous soulignons dans le rapport, pour comprendre la complicité de ce qui se passe à Beni, il faut comprendre l'histoire. Parce que l'APC, dans le temps où ils ont dirigé le territoire du Beni entre 2000 et 2003, sous Moussignanoussi, il y avait des liens déjà à cette époque-là, assez forts, avec les comités minoritaires locaux, avec certains ministres qui commençaient à émerger, mais aussi avec l'ADER. Donc ce ne sont pas des liens qui datent d'aujourd'hui, il faut vraiment comprendre l'histoire de la région. Mais ce que nous trouvons, c'est assez cynique ou pervers, c'est qu'en 2014, après que, dans une première étape, les opérations Sokola 1 ont vraiment essayé de démanteler les réseaux ADF, la deuxième étape, sous la direction du général Akili Mwondos, ils ont abordé ou ils ont pris une approche beaucoup plus cynique. Ils ont identifié ces réseaux et au lieu de les démanteler, ils les ont infiltrés et ont cooptés. Et en faisant cela, ils ont intensifié la violence. Ils sont devenus eux-mêmes complices ou auteurs responsables des massacres. Et voilà le quatrième acteur des commandants par décès des opérations Sokola 1.
Oui, M. Jason, vous avez évoqué le caractère complexe, n'est-ce pas, de ces conflits, et vous avez évoqué quatre acteurs principaux qui sont l'APC, les milices locales, les ADF, ainsi que les FRDC. Mais comment avez-vous procédé, n'est-ce pas, pour identifier ces quatre acteurs principaux?
Nous avons passé 2 ans en faisant des recherches sur place, dans le territoire du Béni. Nous avons interrogé plus de 250 sources, dont plus de 30 ont participé eux-mêmes au massacre. Plusieurs douzaines de témoins oculaires des massacres. Donc, c'était vraiment un travail difficile. Il faut que je dise, ça nous a pris beaucoup de temps pour pouvoir identifier déjà. Moi, je travaille depuis très très longtemps dans les recherches des violences à l'est du Congo. C'est la première fois que je trouve un conflit aussi opaque, aussi difficile à comprendre, avec des secrets aussi difficiles à percer comme à Beni. Donc, ça nous a pris beaucoup de temps, et il faut qu'on l'avoue, nous avons, comme je dis, nous avons pu, avec une grande certitude, identifier quelques acteurs là-dedans. Il y a des grandes questions qui restent. Donc, par exemple, nous disons qu'il y a des officiers ex-APC qui sont impliqués dans les massacres. Là, nous sommes sûrs. Mais sous la direction de qui? Nous ne sommes pas sûrs, par exemple, comme Moussine Amouti était le commanditaire. On n'a pas pu trouver son implication. Mwondos était impliqué. Est-ce que Kinshasa était au courant? Est-ce que c'était sous la direction de la hiérarchie militaire de Kinshasa? On ne le sait pas, on ne pourra pas le prouver. Donc, on a des conclusions, mais nous avons aussi des questions que nous posons dans le rapport.
Oui, en plus des ADF, vous identifiez d'autres acteurs parmi lesquels certains officiers FRDC. Monsieur Jason, peut-on dire qu'à travers ces rapports, le GIEC vient de confirmer les allégations de certains acteurs de la société civile et de certains notables de cette province qui dénonçaient depuis toujours la complicité de quelques officiers FRDC dans ces tueries, allégations qui jusque-là étaient difficiles à confirmer?
Oui, et il faut dire pas seulement les autorités au niveau local, la société civile, mais aussi le groupe d'experts des Nations Unies. Les Nations Unies aussi ont accusé Mwondos personnellement dans cela. Donc, il y a plusieurs, nous confirmons ce que plusieurs autres avaient déjà dit, mais avec, je pense, plus de preuves, plus de témoignages. Il faut que je souligne, nous avons posé la question au général Mwondos lui aussi. Lui a nié son implication. L'armée congolaise aussi a nié l'implication. L'armée congolaise, d'ailleurs, a dit que ce dossier est clos. Ils ont mené des investigations et ils ont trouvé le coupable. Nous pensons que ce n'est pas le cas et devraient réouvrir ces investigations pour beaucoup plus creuser sur leurs propres officiers.
Oui, vous parlez de Mundos, qui vous dites qu'il a nié son implication dans ces massacres, mais vous confirmez, vous insistez sur le fait qu'il était impliqué dans ces tueries de masse. Et quel intérêt, lui, général des FARDC, aurait à massacrer sa propre population alors qu'il est censé la sécuriser?
Il est difficile, pour trouver les mobiles, c'est toujours la partie la plus difficile dans les vérifications criminelles. Nous pouvons constater des faits, pour connaître les mobiles et les motivations, il est plus difficile. Ce que les gens nous ont dit, les témoins oculaires, les participants au massacre nous ont dit, c'est qu'ils pensent que Mundos n'arrivait pas à contrôler ces groupes, n'arrivait pas à les démanteler, et c'est pour cela qu'il a été de les coopter. Et la façon qu'il a utilisée, c'est les infiltrer, les cooptant. Souvent, les gens qui perpétraient les massacres, qui étaient impliqués dans le massacre, eux-mêmes ne savaient pas qu'ils faisaient cela pour Mundos. C'est donc par après qu'ils se sont rendus compte que, tiens, c'était les FARDC qui commandaient et certains massacres, etc. Donc, il est difficile pour nous de conclure avec certitude quelle était cette motivation. Ce que nous savons avec certitude, c'est qu'il y était impliqué. Difficile pour nous de dire si est-ce que c'était pour les profits économiques, certains l'ont dit, est-ce que c'était parce qu'ils voulaient déstabiliser la région pour créer un prétexte ou une répression, est-ce possible même si on n'a pas vu une déclaration d'état d'urgence. Ce que moi je pense, mais c'est la spéculation, c'est qu'ils voulaient, ils ont essayé de contrôler ces groupes, ils n'arrivaient pas à les démanteler.
Merci.
Et donc ils ont opté pour la coopération.
Merci, Maître Juvenal Mounoubou Moubi, député national. Vous êtes membre de la commission Défense et Sécurité. Vous êtes aussi rapporteur de la sous-commission des forces armées à l'Assemblée nationale. Votre réaction au sujet de ces rapports du groupe d'études sur le Congo?
D'abord, je salue M. Jason Sters. Je salue également M. Boniface. Et je salue la publication de ces rapports. J'ai dit que c'est une bonne chose. Et ces rapports du GEC, du groupe d'études sur le Congo, qui est un projet de l'Université de New York, je dirais que ça apporte de l'eau au moulin des députés nationaux. Pourquoi ? Parce que déjà, en novembre 2014, 12 députés nationaux ont été désignés du Nord Kivu, originaire du Nord Kivu, ont été désignés justement pour mener une mission d'information à Beni et alentour. Et dans cette mission, pendant cette mission, la mission est arrivée pendant qu'on avait déjà 80 personnes tuées dans 3 semaines. Et je me réjouis de constater que nos constats à nous, députés, rejoignent un peu les rapports du GIEC confirment. Certains de nos constats, c'est qu'il y a eu relâchement dans la conduite de l'opération Sukola 1. C'est vrai que le groupe d'experts est allé plus loin, jusqu'à essayer de nous indiquer les auteurs. Mais déjà, nous, les députés, nous avions constaté qu'il y a eu ce relâchement-là. La population était prête à collaborer avec les services de sécurité. La population livrait des informations inquiétantes sur des imminentes attaques des ADF Nalu, mais les forces de sécurité n'étaient pas sensibles, que ce soit la police, l'armée, les services de renseignement.
Vous affirmez que ces rapports apportent de l'eau au moulin des députés nationaux. On se rappelle que le caucus des députés du Nord Kivu a toujours dénoncé les massacres de Beni et recommandé l'identification des auteurs de ces massacres. Et pourquoi, à votre avis, il a toujours été si difficile, n'est-ce pas, d'identifier les auteurs de ces massacres?
Dans le rapport de député de la mission d'information qui était envoyée, au fait, le travail ne devait pas se limiter par là. Pourquoi? Parce que après les rapports, après cette mission qui a récolté des éléments préliminaires, ce qu'il fallait faire, c'est approfondir la vérification au moyen maintenant d'une enquête parlementaire. Et je me réjouis aussi, pourquoi? Parce que dans l'exécutif sommaire, comme on dit, dans les résumés exécutifs, je vais dire, du rapport du groupe d'études sur le Congo, Jason Sters, effectivement, et son équipe demandent à l'Assemblée nationale de mener une enquête sérieuse. Et les députés aussi, dans leur rapport, avaient demandé cela. Le problème, c'est que l'Assemblée nationale n'a pas pris la mesure de la question de la situation. On devrait aller un peu plus loin et d'envoyer maintenant une équipe de parlementaires pour une durée un peu plus longue pour mener une enquête approfondie. parce que nous avions déjà identifié les sources d'information, les autorités locales, la société civile. Nous avions parlé même avec certaines victimes. Donc, il y avait moyen d'aller un peu plus loin. Mais le travail du Parlement n'est pas allé loin. Je suis désolé de vous le dire. Peut-être que la volonté politique n'a pas été partagée. C'est ce qui est presque évident. Raison pour laquelle on n'est pas allé très loin. Mais ce n'est pas tard. Nous regrettons, il y a eu des morts, plusieurs morts. Les groupes d'études parlent de 800 morts, au moins 800 morts. Ça veut dire que c'est même plus. Les sources locales de la société civile estiment même à plus de 1000 personnes tuées depuis octobre 2014.
Alors, vous affirmez que l'Assemblée nationale n'a pas pris la mesure de la situation. Maintenant qu'on peut identifier les auteurs de ces massacres, maintenant qu'il y a des éléments, quels sont,
en tout cas, il y a des indices.
Voilà, quels sont à votre avis des scénarios possibles? Est-ce que l'Assemblée nationale pourrait se saisir de ce dossier? L'Assemblée nationale pourrait initier des actions à l'endroit de certaines personnalités?
Absolument. Il faut une enquête approfondie. Il faut une enquête parlementaire. Cette enquête n'a pas encore eu lieu. Cela s'impose. Il faut une collaboration avec la justice. Il faut que la justice fasse son travail. Parce que ce qui est intéressant dans les rapports du groupe d'études sur le Congo, c'est qu'on montre qu'il y a encore une quête de justice. On n'a pas poussé avec les enquêtes pour retrouver les responsables. Et les responsables se situent aussi au niveau de l'armée. Et que ce qui se passe à Beni, les drames de Beni, la responsabilité ne relève pas qu'aux ADF, c'est-à-dire aux rebelles ougandais, il y a des complicités congolaises dans ce qui se passe à Beni. C'est ce qu'il faut retenir de ces rapports. Et donc, ça nous pousse à aller plus loin. Et je crois qu'on ne devrait pas débattre longtemps sur la nécessité, effectivement, pour une enquête. Elle s'impose, et les bureaux de l'Assemblée nationale, et la plénière de l'Assemblée nationale, la commission de défense et sécurité dans laquelle je travaille, devrait se saisir de manière vite de cette question, et surtout mener une enquête, comme je le disais tantôt. Surtout savoir que l'Est du Congo, Beni, ça reste un terreau fertile pour l'instabilité, et que la situation au Kasaï qui reste préoccupante, parce que moi, je suis député national, ça me préoccupe autant que la situation à l'Est, mais il ne faudrait pas que ça éclipse ce qui se passe à l'Est. Ça reste très fragile, la situation à l'Est. On n'a pas consolidé la paix, même s'il faut quand même dire qu'il y a une sorte de diminution des attaques, par rapport aux attaques de masse auxquelles on a assisté, mais ce n'est pas résolu pour autant. Il faut que le Parlement fasse son travail. Il faut que la justice fasse son travail. Il faut que le Parlement pousse la justice à faire son travail.
Honorable Mounoubo, vous êtes élu du Nord Kivu. Et comment vous analysez cette attitude qui consiste pour les milices locales, pour certains officiers des FRDC, pour certains leaders politiques à procéder à des tueries de masse contre leurs parents, leurs frères et leurs enfants?
Il faut s'interroger sur l'enjeu de ces conflits. Qu'est-ce qu'on poursuit? Est-ce qu'il y a des hypothèses possibles? Il y a aussi l'affairisme, en fait. Notre armée est affectée aussi par l'affairisme. Ce n'est pas moi qui l'ai dit pour la première fois dans ces studios. Il y a plusieurs rapports qui ont eu à revenir là-dessus, à démontrer cela. Des rapports d'enquête, des chercheurs ont eu à démontrer cela. Et donc, toutes les fois qu'on mélange les métiers de la défense du territoire avec les soucis de faire le business, eh bien, ça complique la donne. C'est ça, raison pour laquelle les rapports parlent des groupes mafieux au sein de notre secteur de sécurité. Donc, ça peut être une façon de se trouver de l'argent, pourquoi pas. Et en cherchant l'argent n'a pas parfois de moralité pour ceux-là qui veulent bien avoir l'argent, coûte que coûte, par tous les moyens. Donc il faut s'interroger sur la criminalité économique. Est-ce que l'armée n'a pas une part de responsabilité dans cette criminalité économique dont le Congo est victime?
Merci.
Voilà. Il faut aussi voir la fragilité au niveau des frontières. Est-ce que la frontière de l'Est, est-ce qu'elle est sécurisée? On dit souvent que c'est une frontière poreuse, et je confirme, parce qu'on n'a pas encore arrêté un plan efficace des réformes de l'administration aux frontières.
Merci. Boniface Moussavouli, analyste politique, vous êtes auteur d'un ouvrage sur les massacres de Beni. Comment vous analysez le contenu de ces rapports du groupe d'études sur le Congo?
Bon, merci. Je salue aussi Général Minibo et Jason Stan. C'est un rapport qui est très intéressant. J'ai eu le privilège de le lire assez rapidement. Cet rapport dont l'intérêt réside dans la foison des témoignages qui ont été recueillis et qui illustre le côté complexe de la crise de Béni si on l'analyse en la confinant dans le cadre des antagonismes locaux. Le problème, c'est que la crise de Béni doit être analysée au-delà de la situation de Béni, de la société de Béni, parce que même les auteurs du rapport disent clairement qu'ils ne comprennent pas le comportement des tueurs qui sont d'origine diverse, d'origine même disparate, mais qui se retrouvent tout d'un coup en train de tuer une même population, la population de Béni. Et donc cette situation qui est assez irrationnelle, vous avez même des tueurs qui avouent dans le rapport qu'ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire, et on les a tout simplement amenés à l'entrée d'un village, et l'armée a défini un périmètre de sécurité et leur a ordonné d'aller tuer les habitants de ce village. Et donc nous sommes dans une situation où il est presque impossible de comprendre cette crise si on la confine seulement dans le cadre d'une crise locale. Dans mon ouvrage Le massacre de Béni, intitulé Le massacre de Béni, que je recommande à vos auditeurs, moi j'essaie d'aller au-delà du seul cadre de Béni. J'essaie d'explorer la dimension géopolitique autour de cette crise. Et je m'intéresse notamment à l'attitude du régime de Kinshasa, qui pendant des mois a fait croire à la communauté internationale que ce qui se passait à Béni était une sorte de djihad, une sorte de terrorisme international, que les ADF étaient une organisation avec des ramifications au niveau des Al-Shabaab somaliens, de Boko Haram, d'Acni, voire d'Al-Qaïda. Mais lorsque les chercheurs du GIEC, les chercheurs de l'IFRI, les chercheurs de Nations Unies et nous au niveau des Desmoko, nous avons commencé à fouiller, à gratter, à regarder de plus près cette situation de Béni, nous nous sommes rendus compte que les ADF, tels que présentés comme une grande nébuleuse internationale du terrorisme, ce n'était absolument pas ça le cas. Et donc, à partir de ce discours officiel sur les ADF, on peut comprendre l'attitude qui est totalement irrationnelle des militaires d'une armée qui tuent leur propre population. Pourquoi ils font ça? Ils font ça parce que quand vous criez au loup, au loup, au loup, il faut bien qu'un jour vous puissiez présenter la bête et que vous présentiez l'animal, le loup. Et donc, si vous dites qu'il y a un djihad quelque part, un terrorisme international quelque part, bah, il faut bien qu'il y ait des crimes et qu'il y ait bien des attaques contre la population. Et c'est dans ce cadre-là que, personnellement, je situe le comportement irrationnel d'une armée qui recrute des tueurs de tous bords et qui se met à tuer la population de Béni. Voilà. Il y a cet axe-là, Kinshasa, qu'il faut explorer, mais il y a un autre axe qu'il faut explorer, c'est l'axe régional. Et là, je regarde du côté des pays voisins. La crise du 1-23 a été tellement mal gérée, très mal gérée, que dès 2013, avant même la fin des opérations contre le 1-23, on signalait déjà des infiltrations du côté de Kamango, du côté du nord de la province du Nord Kivu, des infiltrations à partir de l'Ouganda. Et ces infiltrations se sont poursuivies. À ces infiltrations, il y a eu un deuxième phénomène qui continue d'ailleurs de perdurer, le phénomène de migration des populations d'expression kinyarwanda, présentées comme des Hutus du Masisi ou des Rutshuru, mais qui se sont avérées être des populations à provenance du Rwanda. Qui est derrière ces vagues migratoires? Que viennent chercher ces populations? Et à cette même période, avec l'arrivée de ces populations,
on a vu que la morphologie même des ADF, qui auparavant étaient des sujets ougandais, qui s'exprimaient en Kiganda, en Ouganda, et en Kiswahili avec un accent ougandais, cette morphologie-là a changé. Et on a commencé à voir des hordes de tueurs qui ne s'exprimaient qu'en Kinyarwanda, une langue qui ne se parle pas à Beni. Donc le visage des ADF a complètement changé.
D'abord,
des individus des Ougandais, et je vais passer à une multitude de facettes dans lesquelles on ne se retrouve. Donc, si on ne situe pas l'analyse au-delà de Beni, c'est-à-dire examiner les aspects extra-locaux, on ne peut pas comprendre ce dossier de massacre de Beni.
Alors, M. Moussavouli, s'il faut aller au-delà, n'est-ce pas, du seul cadre de Beni, comme vous le préconisez, à votre avis, à qui profiterait le massacre des populations de Beni?
Alors, à qui profitera le massacre, à qui profite le massacre de Beni? C'est une question délicate qui demande de prendre son temps et d'analyser des éléments plus ou moins concrets. Il y a d'abord un rapport de l'IFRI, l'Institut français international, qui a fait remarquer que derrière le discours consistant à présenter les massacres de Beni comme une affaire du djihad, une affaire du terrorisme islamiste international, il y avait une volonté de pouvoir de Kinshasa de faire partie de la coalition internationale de lutte contre le terrorisme. Cette coalition internationale de lutte contre le terrorisme, c'est quelque chose de très important. Il y a même le chercheur américain Daniel Fay qui a relevé cet aspect-là pour dire que le Congo voulait faire partie de cette coalition internationale de lutte contre le terrorisme, un peu comme l'Ouganda qui se bat contre les Al-Shabaab en Somalie. C'est une coalition qui permet à un État d'obtenir notamment des aides des États-Unis. Et donc, il faut que tu aies des terroristes sur ton territoire.
Merci, Moussavouli. Merci, Moussavouli. Nous allons vous redonner la parole. Monsieur Jason Stans, nous avons une question qui vous est adressée. Elle vient de Lubumbashi.
C'est Patrick Ndouli, Kassama depuis Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Établir un tel rapport est une bonne chose en citant nommément ce qui serait à la base de cette situation de massacre à Beni. Mais la question est celle de savoir quelles sont les propositions ou les recommandations que ce groupe d'études a formulées à l'égard du gouvernement pour que le vrai coupable, le tireur de ficelles, soit traduit devant la justice et vu l'insensibilité des autorités tant locales que nationales sur le dossier de massacre à Beni. J'invite ce groupe d'études à déposer ses rapports au niveau de la Cour pénale internationale parce que les enquêtes que mènent les autorités congolaises n'aboutissent toujours à rien.
Jason Nostos.
Merci encore. D'abord, merci à l'honorable Mounobo pour tout son travail qu'il fait à l'Assemblée nationale. Et merci aussi à M. Moussavouli qui est parmi les grands experts de la situation sécuritaire à l'est du Congo. Pour répondre à la question de l'auditeur, nous sommes un groupe de recherche. C'est-à-dire, nous ne faisons pas une investigation criminelle. Pour avoir la justice, il faut avoir une investigation criminelle de l'État congolais. Et le territoire congolais, c'est les autorités congolaises qui sont chargées de rendre justice. Ils ont entamé une enquête. Il y a le général Mokuntu qui se trouve toujours sur place à Beni. D'ailleurs, les conclusions du général Mokuntu, le procureur militaire qui est sur place, ne sont pas très différentes que les nôtres. Ils ont trouvé qu'il y a des anciens APC impliqués dans le massacre. Ils ont trouvé des chefs coutumiers locaux coupables dans les massacres. La seule chose qu'ils n'ont pas trouvé, c'est l'implication des officiers Sokola 1. Et nous pensons que leur investigation ne s'est pas terminée. Ils devraient réouvrir et intensifier leur investigation et pousser surtout sur cette piste de l'implication du général Mundos, le colonel Mounima qui était son adjoint, et les autres officiers, le colonel Tipi 00 par exemple aussi, les officiers par décès. Là, c'est la première des choses. Et donc la responsabilité primaire réside sur l'État congolais, sur le gouvernement congolais pour faire son travail. Comme l'honorable Mounobo l'a déjà dit, dans le cas où le gouvernement ne se montre pas volontaire pour faire cela, il y a des autres institutions congolaises qui pourraient le faire. Je pense que l'Assemblée nationale pourrait, comme l'honorable Mounobo l'a dit, identifier son investigation, au moins produire un rapport de l'État congolais, du gouvernement congolais, du Parlement congolais, pour identifier les coupables, pour faire pression sur le gouvernement pour faire son travail. Au niveau de la province du Nord-Kivu, je pense qu'il y a lieu aussi d'un travail de l'Assemblée, de l'exécutif de la province, pour qu'eux aussi s'intéressent à ce conflit de façon plus intensive, je pense. Surtout le côté communautaire, parce qu'il faut souligner que quand le conflit a commencé, tous ces groupes armés ont puisé dans les conflits locaux, les conflits qui opposent la communauté nan des majoritaires et les communautés minoritaires sur place, surtout les Wuba et Pakombe, qui aussi ont été complices dans les massacres. Donc je pense, ça, du côté congolais, il y a plusieurs instances, plusieurs institutions qui pourraient faire ce travail. Comme j'ai dit, notre investigation a produit, je pense, des conclusions très claires, mais aussi pose certaines questions. Côté international, la CPI, bien sûr, pourrait entamer une investigation. Je doute qu'après toutes les investigations qu'ils ont menées sur le Congo, qu'ils vont lancer encore une fois une autre investigation, mais je les encourage à le faire. Je pense aussi qu'il y a lieu que l'Union africaine, surtout à travers le tribunal, la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple, pourrait s'intéresser à cette affaire pour
Merci.
Trouver la vérité.
Merci. Honorable Mounoubo Moubi, il y a aussi pour vous une question qui vient de Bukavu au sud Kivu.
Le Kivu a connu mon chevaliste à Bukavu au sud Kivu. Puis dès lors du rétablissement de l'autorité de l'État, tant qu'il demeure le leitmotiv de beaucoup de discours du chef de l'État, commandant suprême de l'armée, qui lançait principales missions non seulement aux différentes équipes gouvernementales qu'il nomme au sommet de l'État, mais aussi et surtout aux diverses opérations créées pour ces circonstances à Beni et ailleurs sur l'étendue du territoire national, si la justice ne peut pas mettre sa main sur ces officiers de l'armée cités parmi les auteurs de ces tueries sur la population, ces officiers militaires devraient être punis sans complaisance pour servir d'éléphant aux vox.
Honorable Mounoubo.
Je suis d'accord avec cet auditeur, Koulimouchi. Effectivement, il faut prêcher par l'exemple. Il ne suffit pas de parler du rétablissement de l'autorité de l'État. Ça revient souvent dans les discours des officiels congolais. Le gouvernement congolais a même signé l'accord cadre d'Addis Abeba. Et parmi les engagements du Congo, je crois les tout premiers, c'est ça, ramener la paix, restaurer l'autorité de l'État et réformer les secteurs de sécurité.
Et à votre avis, pourquoi nous avons du mal à relever ces défis, restaurer l'autorité de l'État?
Il y a un déficit, un peu comme les déficits énergétiques à travers le pays, il y a les déficits de volonté politique, tout simplement. Donc il n'y a pas une volonté forte à mobiliser les moyens pour les secteurs de sécurité. Il n'y a pas une volonté forte à définir une vision claire et à situer ce qui pourrait être l'apport des partenaires. Il n'y a pas une volonté forte à lutter contre l'impunité dans les secteurs de sécurité, y compris l'armée. Et pourquoi ? Parce que dans un secteur sensible comme celui de l'armée, s'il y a des alertes, des complicités, on devrait se saisir, la justice devait faire son travail pour que de gros poissons soient sanctionnés.
Voilà, vous dites qu'il n'y a pas de volonté propre pour lutter, n'est-ce pas, contre l'insécurité. J'ai posé la question à M. Boniface Moussavouli. À votre avis, à qui profiteraient les massacres des populations des Béni? Oui, honorable Mounoubo.
À qui profiterait le massacre?
Non, je pose la question à l'honorable Mounoubo.
La question, elle n'est pas si facile, a priori. Je suis donc d'accord avec M. Boniface, parce qu'il a dit qu'il faut creuser, il faut chercher, il faut investiguer. Je suis tout à fait d'accord, il faut mener des enquêtes approfondies. Il faut une enquête sur le plan politique, l'enquête des parlementaires, il faut une enquête judiciaire. Et il faut se servir aussi, parce qu'il y a déjà beaucoup d'études sur le Béni. Hein, il y a les rapports du groupe d'études sur le Congo, il y a les groupes d'experts des Nations Unies, on parlait aussi du rapport IFRI. Il faut se servir de tout ça. D'emblée comme ça, c'est difficile de savoir qui tue. C'est vrai, il y a quelques éléments en termes d'indices, et j'ai dit merci pour le groupe d'experts, mais les dire avec toutes les précisions possibles, je pense que ce n'est pas un exercice aisé. Il faut des enquêtes approfondies. Et c'est à partir de ça, c'est à l'issue de ça qu'on saura à qui profitent les crimes. Parce que, qu'on dise la vérité, ça profite à certaines personnes. Et j'étais en train de, en lançant la réflexion, je parlais du business. Est-ce que notre armée, est-ce qu'il n'y a pas des officiers de l'armée impliqués dans les business? On a entendu des rapports où il y a un officier hautement placé qui avait quelques relations avec des milices. Je ne vais pas citer des noms ici, mais vous comprenez de quoi je parle. Et donc, il faut prendre tout ça, tous ces acquis-là en termes de réflexion, d'enquête, de collecte de données, et il faut que le gouvernement congolais. Je suis tout à fait d'accord avec Jason Sterz, il ne faut pas attendre, ce n'est pas les rapports GEC qui pourra sanctionner les. Ce n'est pas ça dans la mission de.
Mais ces rapports rapportent un certain nombre d'éléments.
Oui, c'est des éléments. C'est des éléments. Si un procureur de la République, comme l'auditeur, s'en servait, eh bien, ça peut lui faciliter la tâche. Si les députés s'en servent, eh bien, ça peut les aider à approfondir leurs enquêtes. Donc, il faut qu'on évolue un peu, parce que les rapports avec les organisations des droits de l'homme, c'est des rapports marqués par une certaine froideur. Il faut qu'on évolue. Pourquoi ? Parce que ce sont des alertes, et si nous nous en servons, ça peut nous aider à bien faire notre travail.
Boniface Moussavouli, il y a une question pour vous, elle vient de Bukavu, une fois de plus, au sud de Kivu.
Depuis Bukavu, je pense que tant que la culture de l'impunité régnera au Congo, nous assisterons toujours à ce genre de camps. Tant que les criminels seront l'enfant chéri de ceux qui gouvernent, tant que les sangs des innombrables victimes de la barbarie humaine au Congo ne seront pas vengés par de bonnes lois, rien ne changera et n'importe qui tuera, violera et pillera sans inquiétude. Plusieurs officiers de cette armée ont déjà été ciblés dans plusieurs rapports liés à ce genre d'affaires et en échange, nous les avons promis au grade supérieur au lieu de les soumettre à la justice. Je pense que le chef de l'État devrait personnellement s'impliquer dans cette affaire ciblant certains de ses proches, faute de quoi il sera coupable d'un silence.
Boniface Moussavouli.
Oui, merci pour la question. C'est une remarque de votre auditeur Yamungu. C'est l'une des raisons pour lesquelles la question de l'impunité, l'une des raisons pour lesquelles quand nous avons commencé à mener des actions sur le massacre de Beni, nous avons lancé une pétition demandant au procureur de la Cour pénale internationale de venir mener des enquêtes sur cette affaire, parce que nous savons que le système judiciaire congolais ne peut absolument pas mener ce dossier jusqu'à son terme. Et donc, il faut absolument que la Cour pénale internationale et les partenaires extérieurs de la RDC puissent pousser vers l'augmentation de la justice pour les victimes. Je salue au passage la commission de l'Union européenne qui a inscrit le général Mundos sur la liste des personnes sanctionnées. Il faut qu'il existe. Soit complété par d'autres noms qui sont cités dans le rapport, par exemple, mais aussi des noms qui sont cités, ce sont même les mêmes noms qui sont cités dans plusieurs rapports, et nous sommes dans un pays qui est gouverné de façon extrêmement surréaliste. Vous avez des individus qui sont cités dans le rapport avec des témoignages tout à fait crédibles, mais qui continuent d'être libres. Et même d'obtenir des promotions dans l'armée, alors que sous d'autres cieux, ces individus seraient, il y a longtemps qu'ils seraient interpellés par la justice militaire et traduits en justice. Donc il y a aussi un problème de gouvernance qui est absolument incroyable au Congo, où vous avez des criminels qui commettent des crimes absolument épouvantables et qui continuent d'être là, libres. Dans notre cours de nos recherches, nous avons même remarqué qu'il y a des individus comme le major Yamungu qui étaient impliqués dans le massacre de Kisangani. Vous vous rendez compte, dans les années, disons, à 2002, et qui est venu commettre des massacres à Beni. Nous avons remarqué d'autres gens comme les Adria et les autres qui sont impliqués dans plusieurs crimes, plusieurs atrocités, mais qui sont toujours dans l'armée. Et qui sont toujours là. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Et dans notre pays, vous avez un rapport des experts de l'ONU qui cite un officier de l'armée impliqué dans des crimes aussi atroces. Tout de suite, vous avez le gouvernement qui se mobilise, vous avez la presse nationale qui se mobilise, vous avez les procureurs qui se mobilisent et qui font tout pour que cet individu soit neutralisé, arrêté, désarmé et placé en prison. Que se passe-t-il au Congo?
Oui, monsieur Boniface.
Le Congo.
Monsieur Boniface Moussavouli, oui. vous avez, maintenant que ce rapport a été publié, à quoi vous vous attendez? Vous avez, n'est-ce pas, prôné qu'il faut aller au-delà du seul cadre de Beni, et donc vous proposerez qu'il y ait des études, n'est-ce pas, qui puissent s'étendre jusqu'à Kinshasa et même dans la région pour permettre de bien cerner cette question de Beni.
Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a une interview très intéressante que le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, avait tenue, et au cours de laquelle il avait dit que le massacre de Beni, les auteurs du massacre de Beni bénéficient de complicités à tous les niveaux des institutions. Comme procureur, je commencerai par lui pour lui demander quels sont les éléments dont il dispose sur ce massacre pour lancer une affirmation comme ça. Nous savons qu'effectivement, il y a des soutiens, hein, il y a des soutiens qui sont à tous les niveaux, y compris également au niveau régional. Il faut donc que cette affaire soit placée entre les mains. Bien entendu, la meilleure piste, c'est la Cour pénale internationale, parce que le procureur dispose de pouvoirs étendus, mais nous savons que c'est très compliqué au niveau de la Cour pénale internationale s'il n'y a pas une implication. Soit du Conseil de sécurité, soit du gouvernement congolais, il est assez difficile d'obtenir les enquêtes de la Cour pénale internationale. Mais c'est vers là qu'il faut y aller, peut-être en essayant de travailler avec l'Union européenne, qui a déjà inscrit un nombre d'endosses sur la liste de sanctions.
Merci.
Peut-être étendre cette liste de sanctions et demander à l'Union européenne d'essayer de peser de son poids, parce que nous savons que le gouvernement congolais ne va pas le faire. Et demander à l'Union européenne de peser de son poids auprès du bureau du procureur de la Cour pénale internationale pour qu'il déclenche des enquêtes sur ces atrocités et ces délits.
Merci. Mais disons une instance, dans les recommandations, il est dit que le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait assurer le suivi des rapports soumis par le groupe d'experts des Nations Unies et sanctionner les individus impliqués dans les violences aux alentours de Beni. Et avez-vous saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies?
Allô?
Oui, est-ce que vous avez saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies?
Nous avons pris un certain nombre de contacts au niveau de notre organisation, mais nous sommes dans la démarche de la plupart des organisations congolaises. Nous n'allons pas vous dire si nous vous avons contacté celui-là, mais nous avons quand même contacté le bureau du procureur de la Cour pénale internationale pour l'alerter sur la situation des victimes de Beni et sur la nécessité de déclencher une enquête au niveau du bureau du procureur de la CP.
Merci, j'ai considéré ça comme votre conclusion. En conclusion, M. Jason Nestos, est-ce que vous avez saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies par rapport à ces rapports? Parce que parmi les recommandations, vous demandez au Conseil de sécurité des Nations Unies, n'est-ce pas, d'assurer le suivi des rapports soumis par le GIEC et sanctionner les individus impliqués dans les violences aux alentours de Beni.
Vous pouvez répéter la question, la communication passe mal.
Oui, j'ai demandé, est-ce que vous avez, après avoir produit ces rapports, est-ce que vous avez saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies?
On va discuter, on a présenté le rapport ici aux responsables des Nations Unies, je pense surtout parce que nous critiquons la mission maintien de la paix des Nations Unies, la MONUSCO aussi dans ce rapport. Pour souligner que pendant tout ce temps-là, pendant presque toute cette période-là, la MONUSCO a soutenu les PARDC. Et d'une façon qui n'était pas assez critique. Donc, sans comprendre les dynamiques sous-jacentes du conflit, la MONUSCO a préféré seulement de coopérer, de soutenir militairement les PARDC, sans connaître et sans savoir que les PARDC eux-mêmes étaient impliqués dans certains massacres. Et je pense que c'est une indice du fait que la MONUSCO doit investir plus de ressources dans la compréhension et de l'analyse du conflit pour trouver des solutions. On ne peut pas trouver.
Merci, Jason. Merci, honorable Mounoubo. Un mot en guise de conclusion.
Je crois qu'il faut veiller sur le commandement. Il faut un bon commandement au niveau des FARDC. Il faut un commandement comme celui qui a été celui de Bauma, de Mamadou Ndala. Pourquoi? Parce que c'est après le décès de ces deux officiers que les massacres ont commencé. Il n'y a que des, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci et bon sujet au programme sur Radio Capi.